Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté les mille facettes de leur territoire, la Mayenne.
Qu'on est loin de la Mayenne, il nous tarde de revenir, on est en manque.
Nous sommes aujourd'hui dans le nord Mayenne, à proximité de la Corniche de Paille, un site naturel d'exception. Une fois passée la commune de Gèvres, un chemin de terre nous conduit vers une petite exploitation nichée dans un écrin de 80 hectares de prairies. C'est celle de Louise et Philippe Biou.
Allez-y.
Merci.
Sans sucre,
merci.
À l'âge où certains prendraient leur retraite, Louise et Philippe, après une grande partie de leur vie à s'occuper des autres, ont quitté le sud pour accomplir un vieux rêve, cultiver le safran.
J'étais tombée à l'époque sur un reportage, en fait. Et puis, j'étais vraiment séduite et je suis tombée amoureuse de cette fleur. Et puis je me suis dit, Et puis j'ai commencé à faire des recherches, à me documenter. On est allé voir des safraniers. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça montait. Ça a cheminé toujours dans la tête. Et c'est un projet qui, comme quoi il ne faut jamais oublier ses rêves. Et ça, c'est important. Il faut toujours les avoir. Et en fait, la vie a fait que y avait les enfants en études, pas pu. Et puis après, ma maman qui a eu besoin de nous sur la fin de sa vie. Et donc, on s'en est occupé jusqu'au bout. Et puis, quand elle est partie, on a dit, maintenant, on va foncer. On va foncer pour notre projet. On va y aller. Et donc, on a vu cette maison sur un site de notaire, en fait. Et puis, on est venu la voir. Cette maison, déjà, on avait un petit peu le coup de foudre, quand même. Hein. Elle avait énormément... Enfin, là, encore énormément de travaux, mais on le savait. En voyant le terrain, on savait. Il était pentu et drainé. C'est ce qu'il nous fallait pour cette culture. Donc, on savait que là, maintenant, on pouvait s'installer. On pouvait planter nos premières bulbes et on les a plantées un an après avoir acheté la maison.
Durant 3 ans, sans être mécanisés, Louise et Philippe ont appris patiemment à maîtriser cette culture. Ces temps longs, le désherbage à la main, la préparation, puis c'est en cours. Lors de la floraison, où il faut, dans un laps de temps très restreint, cueillir les fleurs, les émonder pour recueillir le précieux safran, puis le sécher.
C'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais on est tellement passionné par ce qu'on fait. Et cette fleur, elle vous fait oublier votre fatigue. C'est comme une femme après l'accouchement, ça a été dur, ça a été pénible. Mais une fois qu'elle a le bébé dans les mains, elle a tout oublié. Le safran, la cueillette, c'est un peu ça. Une fois qu'on a récupéré les fleurs et émondé, on oublie très vite la fatigue.
Cultivé en bio, séché à l'abri du soleil pour en conserver la précieuse composition chimique, le safran de Louise et Philippe, récemment analysé en laboratoire, est d'une qualité pouvant rivaliser avec les meilleurs safrans à l'international. Mais loin d'en faire un produit inaccessible, réservé à une élite, Louise et Philippe ont à cœur de démocratiser le safran.
Celui qui n'a même pas un budget, quoi. À l'époque de la Saint-Jacques, il va se faire 4 Saint-Jacques au safran pour même pas le prix d'un McDo, quoi. Et puis il va toucher quelque chose, le Graal. C'est comme la truffe. La truffe, on dit, c'est super cher, mais la truffe, ça se râpe, c'est délicat, c'est... Voilà, le safran, faut pas en mettre beaucoup, autrement ça tue tout.
Et puis sa puissance est telle.
C'est puissant, Et puis en quelque part, on se fait du bien en même temps, parce que justement, on amène justement les petites notes qu'il faut. Du coup, avec très peu, on fait quelque chose de très bon. Ça va même pas dans notre sens, parce qu'il y a un safran bien utilisé. Il faut beaucoup de temps pour utiliser le stock qu'ils vont acheter. Ça va pas dans notre sens, mais c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est faire du bien, du plaisir, quoi. Plaisir, et puis faire quelque chose de vrai. Le safran, déjà, l'origine, c'est la bulbe. Si elle est originaire de France, déjà, on a plus de chances qu'elle s'adapte sur un territoire français. Déjà, prendre une bulbe de qualité et qui se reproduit très bien. Donc après, c'est la façon de cultiver. On cultive sur une légère butte, sur un terrain drainé, en pente.
Pourquoi en pente?
Parce que c'est l'eau stagnante qui est l'ennemi numéro un. Il y aurait trop d'eau et ça, la bulbe, elle n'aimerait pas. La fleur pousse en premier et les feuilles après.
Vous sentiriez l'odeur de cette fleur, mais c'est, pff, Ça vous remplit. Ah ouais, c'est une puissance. Et c'est pas le safran que vous sentez, c'est vraiment la fleur qui dégage une odeur, mais c'est magique. Donc là, on va pas vous montrer les fleurs, mais on va vous montrer les pousses.
Les pousses.
Parce qu'elles arrivent. Hein.
Voilà, j'ai peur de l'endroit où je marche du coup.
Non, là non.
Ok.
Là non.
Ah oui, je vois les petites pointes là.
Les avez là. Et en fait, toute cette rangée là, elles sortent bien là, il y en a là. Il y en a un peu plus haut, voilà. Elles arrivent. Et tout ça, ça va donner des fleurs.
Au surnom l'or rouge que l'on attribue généralement au safran, Louise et Philippe en préfèrent un autre, peut-être moins connu, l'épice de la joie. Et lorsque l'on connaît le passé de Louise et Philippe, qui ont consacré une grande partie de leur vie à l'action associative et humanitaire, on comprend mieux le rapport entre l'épice et leur personnalité. Ils partagent le safran comme l'on partage une bonne nouvelle. Ils peuvent passer des heures entières à vous accueillir et vous parler des vertus de l'épice, parfois même en oubliant de vous la vendre.
Mais les gens, ils aiment ça. Ils aiment quand on les prend pas pour simplement un porte-monnaie qui se déplace, quoi. Ils aiment qu'on leur parle franchement, ils aiment les gens authentiques et les gens vrais. Et ça on le retrouve dans tous nos rapports avec les autres. Ils nous disent, franchement, vous faites passer votre passion et on vous écouterait des heures. Et généralement, les gens viennent, même les restaurateurs qui sont venus ici prendre du safran à la ferme, ils venaient, ah, on n'a pas une demi-heure, pas plus. Hein. Ils sont restés 3 heures. Voilà, donc, vous savez quand vous venez, vous ne savez pas quand vous partez. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les gens nous disent, mais vous donnez beaucoup de votre temps. Ben oui, mais on partage le temps. Le temps, en fait, il y a un vieux proverbe africain qui dit, vous avez les montres, nous on a le temps. Et ben nous, on prend cette philosophie-là. Vous avez les montres, nous on a le temps. Donc on le partage. Voilà.
Moi, je ne suis pas jaloux des gens qui sont bien. Mais au contraire, je suis embêté des gens qui ne vont pas bien, quoi. Donc à partir du moment donné qu'on peut améliorer... même si c'est qu'un quart d'heure la vie de quelqu'un, ben voilà, quoi, c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre à faire, quoi. Et ouais, cette épice s'y prête bien, parce que comme on disait, c'est l'épice de la joie. C'est vrai qu'on on en consomme aussi régulièrement.
Je pense que vous avez plus de safran dans le sang que beaucoup de personnes.
Que d'autres personnes, c'est sûr.
Bah nous, on le teste, on l'essaye, on le marie à plein de produits différents. Mais on goûte, on fait goûter nos voisins pour avoir leur avis et on se régale, quoi.
L'avenir de l'exploitation Loup Safran ne sera donc pas de doubler ou tripler sa production, mais plutôt d'améliorer constamment l'accueil et la pédagogie auprès du public. En projet, un laboratoire, une boutique pour mieux accueillir les visiteurs et pourquoi pas, demain, développer l'hospitalité avec des tables d'hôtes.
Nous, on préfère passer plus de temps avec les gens qui nous achètent le safran, plus de partage, que de rentrer dans un système très commerce, très libéral. Et puis pour dire, ben voilà, moi, notre vie nous plaît comme ça. Et puis un peu de l'humilité nous a toujours accompagnés, donc voilà, c'est l'humilité autour du safran, ça peut paraître bizarre, mais ça peut le faire aussi, quoi. Parce que les gens en ont besoin aussi, qu'on leur explique un produit et de savoir qu'on a envie de travailler différemment. Et puis on explique aussi la façon que l'on vit, et puis ça interpelle beaucoup de gens, quoi, aussi.
En 3 ans, les sudistes se sont parfaitement intégrés au tissu mayennais. Ils collaborent avec des producteurs, restaurateurs, apiculteurs pour faire découvrir le safran. Aujourd'hui, leur terre est en Mayenne et leur cœur, visiblement, aussi.
La Mayenne, c'est vraiment un département qui a toujours été là. L'Office du tourisme, la communauté de communes, que ce soit n'importe qui. Ils ont toujours été là pour nous donner les bonnes adresses, pour nous mettre en avant, pour dire il y a ça qui se passe, il faut que vous soyez là.
Justement, avec ce regard que vous avez, comment vous définiriez le caractère mayennais ?
Alors, le caractère mayennais, c'est un caractère rural. C'est comme dans d'autres régions, les régions viticoles, les régions très rurales et tout ça. Au début, les gens se méfient, regardent.
Vous observez.
Ils observent. Bon, ils voient des gens qui arrosent avec un arrosoir ou un tuyau d'eau, qui ont un tracteur, qui ont un motoculteur, qui ont un 4-pattes dans la safranière. Bon, après, ils disent, ces gens-là, ils ont 60 balais, enfin, ils ne connaissent pas notre âge. Mais bon, ils ne sont pas venus là pour nous en mettre plein la vue, quoi. Et puis, bon, on est très respectueux, nous, déjà, par rapport à nos parcours. Et puis, du coup, ça se passe bien. Après, la Mayenne, il y a... La valeur ajoutée de la Mayenne, c'est ses habitants, mais aussi ceux qui viennent s'installer. Bon, et ceux qui restent et ceux qui viennent avec des projets, comme nous, il y en a plein qui s'installent en Mayenne, qui ont des parcours de vie fantastiques. Des gens qui sont vraiment, qui viennent de métiers de ouf, hein, on en a vu. Voilà, ils seraient restés dans leur profession, ça va. Bah, ils préfèrent perdre en qualité financière et aller dans une qualité de vie. Alors ça fait la richesse aussi de la Mayenne, parce que c'est des gens qui ont des initiatives, c'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui sont respectueux. Et les touristes qui sont en Mayenne, c'est un touriste pas de masse, c'est un touriste de qualité qui recherche la tranquillité, qui a la qualité de vie, qui recherche plein de choses. Alors il faut tout pour faire un monde, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que la Mayenne est bien placée pour ça. Et puis ce territoire, moi je trouve qu'il y a un peu de tout et il se prête à une qualité de vie, quoi. Alors, aussi bien qu'en touriste qu'en vie de tous les jours, quoi. Quelqu'un qui s'installe ici, c'est loin d'être bête, quoi.
On a découvert les Mayennais, mais alors d'origine ou pas, mais en fait les gens qui habitent en Mayenne. Et nous, c'était que de l'amour. Notre première expérience avec la Mayenne, c'était sur Pré-en-Paille, on rentre à la cave, on se dit, tiens, il y a une cave, on va aller acheter une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin. On rentre, et puis c'était en janvier, je me rappellerai toujours, il y avait du gui qui était suspendu au-dessus de la porte. On a franchi la porte, et la personne qui s'en occupe, Martine, hein, qui est devenue une amie, elle dit, bougez pas, faut que je vienne vous embrasser, sous le gui. Alors ça, vous le trouvez pas ailleurs. C'est magique. C'est des petites choses comme ça qui font que tous les jours, ça vous fait grandir et ça vous projette en avant.
C'est peut-être cela, la Mayenne. Terre du milieu où la joie peut se cultiver avec beaucoup d'attention. Cette joie peut se cueillir et comme pour le safran, une toute petite quantité suffit pour la partager. À bientôt pour de nouvelles immersions sonores de la destination Mayenne.